J'ai envie de m'amuser ce soir. Je vais écouter un bon podcast.
Et maintenant un bon podcast.
À cause que c'est tranquille ce soir, on va écouter un bon podcast.
Maintenant.
Et maintenant, un bon podcast.
Un bon podcast.
Un bon podcast.
Et maintenant, un bon podcast.
Maintenant, un bon podcast.
Faites juste écouter un bon podcast. Bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes en compagnie de Pierre Poisson-Marquis, qui est le responsable de l'Association pour la promotion des jeux en société au Québec. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Enchanté de te croiser. Une association comme celle-là, c'est vraiment éclectique, on va dire, de se dire waouh, c'est une association dont le but c'est vraiment la promotion du jeu de société. C'est né comment cette affaire-là?
Je te donne d'accord pour le fait que ce soit éclectique. C'est vraiment quelque chose qui touche au jeu dans toutes ses formes. C'est né de cet engouement qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Nous avons ici au Québec l'équivalent des week-ends ludopathiques de Bruno Fedotti en France ou du Gathering of Friends de Alan Moon aux États-Unis. Nous avons pris l'habitude depuis 5 ou 6 ans de former d'inviter les gens plutôt de les passionnés de jeux de société à venir passer des week-ends dans des endroits précis au Québec et je dirais vraiment que c'est à la grandeur de la province et ces week-ends-là sont devenus de plus en plus populaires et avec le temps on s'est dit pourquoi pas aller encore plus loin, pourquoi pas pas former une association qui pourrait permettre de avoir des membres qui sont présents partout où le jeu de société est mis en valeur dans tous les événements qui s'organisent dans le Québec.
Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'événements maintenant qui s'organisent justement pour dans lesquels cette association peut être représentée?
Eh bien, il y en a eu un dernièrement, oui, celui des Trois Lys qui a donné naissance à notre prix qui serait l'équivalent de l'As d'Or en France, par exemple, ou Spiel des Jahres en Allemagne. C'est notre prix des jeux de société à nous, au Québec, que nous avons donné naissance à ce prix-là il y a un mois maintenant. C'était le 15 octobre que nous avons décerné les gagnants dans trois catégories, les jeux pour passionnés, les jeux pour la famille et les jeux pour enfants. Et ces trois jeux... Nous avons sélectionné ces trois jeux-là dans des titres qui sont parus depuis l'année dernière et qui ont été traduits. C'est très important qu'ils soient traduits parce qu'il fallait quand même les avoir dans la langue qui est la langue officielle au Québec, qui est le français. Et on a voulu faire connaître ces jeux-là aux néophytes, aux gens qui peuvent ne pas du tout savoir qu'il y a quelque chose d'autre que le Scrabble, le Monopoly ou la Bonne Paye au Québec.
Alors justement, quand on parle de jeux de société ici à des novices ou à des gens qui ne sont pas au courant que le jeu de société est vraiment en train d'exploser, quelle est leur réaction de prime abord? Comment est-ce qu'on voit le jeu de société quand on n'est pas au courant de ça?
Je crois qu'on est assez surpris. Je crois que les gens à qui on parle de jeux comme Cash and Gun, par exemple, qui est un jeu vraiment loufoque et déjanté, ne s'imagine pas qu'un jeu, ça peut être trop autre chose que lancer un dé, avancer un pion sur un parcours et piocher une carte et lire les instructions sur la carte. Les gens n'ont pas cette conception du jeu en société, commercial surtout, autre que ce genre de jeu où il y a un parcours à faire avec un dé. Lorsqu'on leur présente d'autres jeux comme Puerto Rico ou comme Les Aventuriers du Rail, ce sont des jeux qui leur font réaliser vraiment que franchement, il y a toute un pan de créativité dans le jeu société qu'ils ignoraient. Et ça les rend très curieux, tout à coup. Ça les illumine un peu, ça les amène à voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont manqué depuis quelques années. Et oui, je crois que le boom se fait, la renaissance se fait, les magasins sont là pour en témoigner. Les inventaires des magasins, des boutiques spécialisées, des librairies se sont vus décuplés depuis quelques années et la clientèle est là pour s'intéresser.
Et c'est ça, c'est une histoire de manque, en fait, de se rendre compte qu'on est passé à côté de quelque chose?
C'est un manque, je crois, mais c'est aussi un phénomène que je crois qui est associé à ce qu'on appelle... Les sociologues américains appellent ça le nesting. Depuis les événements de 2001, le World Trade Center, il y a eu une espèce de... de revirement de situation, alors que les gens étaient tous reclus sur eux-mêmes avant, avec la venue d'Internet, ils étaient tous portés à faire un peu ce qu'on appelle le cocooning, c'est-à-dire les gens étaient reclus sur, dans leurs petits espaces individuels et ils se satisfaisaient un peu de cette vie-là. Les événements de terroristes ont comme fait un éveil. La cuisine est devenue la nouvelle place sociale qui a remplacé la chambre à coucher. Les gens se sont vus soudainement appelés à fraterniser un peu plus, à se solidariser ensemble parce qu'ils se voyaient atteints dans leur lieu même, dans leur berceau où ils ont grandi par des événements assez catastrophiques. Donc, ils se sont vus un peu tout naturellement amenés à fraterniser un peu plus. Et le jeu de société et le loisir qui est probablement le plus fusionnel avec ce phénomène-là et le plus représentatif de ce mouvement-là.
Oui, parce que ça, c'est vraiment un des retours qu'on a des joueurs qui sont ici sur la Fiesta Ludique, c'est de dire, on peut venir tout seul jouer, on rencontre des gens, on s'assied et puis, on crée des liens. Quoi. On est vraiment dans c'est ça le nesting, finalement.
C'est exactement ça, oui. C'est le contraire de l'isolation. C'est l'apport social, finalement. C'est d'inviter à connaître son prochain et à le connaître autrement que par la discussion sempiternelle. Que fais-tu dans la vie? Quel âge que tu as? Donc, c'est vraiment intéressant.
Et justement, pour revenir aux trois lys, ça correspond aussi à une demande du public d'être guidé à travers des appréciations faites par un groupement qui prend le temps de se dire, voilà, ce jeu-là, on a envie de le primer.
Oui, et en fait, il faut souligner qu'il y a déjà une organisation ici qui est dirigée par un magazine québécois qui s'appelle Le Protégez-vous, qui à chaque année, Le Protégez-vous est un magazine un peu qui met en garde le grand public sur toutes sortes d'articles de consommation que l'on peut acheter et qui nous guide un peu sur les marques qui sont un peu porté à frauder les gens alors que d'autres sont plus honnêtes. Alors, le Protégez-vous, à chaque année, un mois avant les fêtes, un mois avant Noël, publie son guide du jouet et des jeux. Et les gens sont très, très alertes à ce guide. Ils sont plusieurs parents à chaque année vont acheter leurs cadeaux pour leurs fils, leurs filles, en fonction de ce guide-là. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas aller plus loin que ce guide qui, finalement, est dans un cadre beaucoup plus généralisé. Nous, on veut vraiment mettre le jeu et uniquement le jeu en valeur. Et surtout, la différence de ce guide, c'est que le guide, en tant que tel, va interroger des familles. Il va lancer un peu partout des exemplaires de jeux qui vont lui être proposés par des éditeurs ou des distributeurs. Il va les faire tester par des familles ou des gens de tous les jours et ces gens-là vont ensuite redonner les feedbacks de ce qu'ils ont eu. Nous, ce qu'on s'est proposé de faire, c'est d'avoir des avis de gens éclairés, des gens qui sont des ludophiles et qui connaissent très bien le jeu et qui se proposent comme étant les guides pour le grand public. Donc, ce sont des gens aussi qui ont un lien avec le grand public, c'est-à-dire des gens qui ont participé à des animations publiques, qui sont dans le monde du jury, qui ont une certaine notoriété auprès des médias et qui savent faire le pont entre le néophyte et le ludophile, finalement.
Et justement, les jeux primés sur les trois listes, alors cette année, donc on parlait vraiment, ce sont des jeux qui sont sortis en 2008-2009, ou parce que là, on est fin 2009, pratiquement?
Oui, en fait, les versions françaises de ces jeux sont sorties dans la dernière année, effectivement, donc de 2008 à 2009. On parle de Dixit pour le prix familial, Agricola pour le prix des jeux passionnés, pour le jeu pour enfants, c'est mon premier Carcassonne. Et il y avait 15 jeux, 15 finalistes, donc 5 par catégorie. Et c'était des choix quand même assez difficiles, même malgré que les gagnants se sont pointés d'une manière assez évidente, mais les critères étaient assez rigoureux et je crois que les choix sont quand même assez unanimes.
Et justement, les critères, c'est quoi?
Les critères, tout dépend de la catégorie, mais un critère qui revient toujours, évidemment, c'est la qualité du matériel et la clarté des règles. Par contre, si on va d'une catégorie à l'autre, on va plutôt privilégié pour les jeux pour enfants, des jeux qui vont être capables de s'adapter avec l'enfant qui va grandir, puisque on veut pas un jeu pour enfants qui va rester sur les tablettes une fois que l'enfant va avoir vieilli d'un an. Un jeu aussi pour enfants qui va être capable de faire progresser certaines capacités d'apprentissage va être privilégié aussi. Pour les jeux familiaux ou passionnés, on va privilégier une certaine originalité parfois, mais ça c'est surtout pour les départager, parce que bon, l'originalité, parfois un jeu peut être excellent sans pour autant réinventer la roue, mais si des jeux sont vraiment ex-aequo dans leur qualité, l'originalité va probablement finir par avoir le dessus. Et on va probablement privilégier le jeu familial selon des critères très très conviviaux, très rassembleurs, et pour le jeu passionné, c'est plutôt un jeu qui va stimuler les réflexions et la stratégie.
Alors, du côté européen, on a des discussions qui commencent à sortir en se disant, tiens, le marché, enfin, le public est en train de s'élargir et est en demande de gros jeux, mais avec un temps d'explication de règles qui ne dépasse pas les 5 minutes. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez de votre côté?
Pour le jeu familial, je crois que oui, dans nos critères de sélection, et c'était quelque chose qui va peser lourd dans la balance. Il est assez clair, je crois, que pour attirer du nouveau public, il nous faut quand même des règles très, très simples. Ouais. Alors oui, des règles qui s'expliquent en 5 minutes, c'est un net avantage.
Ouais. Oui. Mais là, ça, apparemment, ça va même jusque dans du gros jeu, je veux dire, du Agricola expliqué en 5 minutes, par exemple. Il y a une mouvance qui est en train de se développer.
Oui, oui, c'est vrai, on sent vraiment une espèce de nouveau courant, le jeu qui s'explique par lui-même, qui est un peu comme le jeu vidéo finalement. C'est un peu aussi, je crois, le réflexe des éditeurs de jeux qui vont essayer de lutter contre la fameuse industrie du jeu vidéo qui vraiment rafle tout sur son passage. Pour lutter contre un tel monstre, il faut avoir des jeux à la mesure.
Qui fait partie de l'association de la promotion du jeu en société au Québec?
C'est un groupe qui est quand même assez modeste présentement. Nous sommes, je crois, peut-être 5 ou 6 jusqu'à maintenant, mais bon, les membres sont invités à se joindre et à faire grossir le groupe, évidemment. Essentiellement, ce sont des gens qui, comme j'ai dit tantôt, sont près du public. Catherine Gros-Schmidt en est une, par exemple, qui est une journaliste chevronnée, très, très passionnée des jeux. Depuis son arrivée au Québec, elle ne fait que œuvrer dans le domaine. Elle a travaillé d'ailleurs pour le fameux magazine Protégez-vous, dont j'ai parlé. Joël Gagnon est un chic type qui va à chaque mercredi aller dans un café au centre-ville de Montréal pour faire connaître les jeux à des gens qui sont là, un café qui se veut à vocation culturelle et ludique. Alors il est là pour vraiment faire le contact avec le grand public. Son frère Francis Gagnon est un autre notre personnage qui a, lui, démarré son entreprise socio-jeu, qu'il appelle, et qui se spécialise dans le format géant de jeux comme Villa Pelletti ou le...
Non, vraiment un géant, celui-là.
Oui, c'est assez gros, oui. Et il attire les foules avec ça, évidemment. Des personnes aussi qui sont, comme moi évidemment, qui vont travailler plus dans le côté intellectuel du jeu, le côté beaucoup plus analytique, oui, ou des gens qui vont aussi participer à ces fameux week-ends ludiques, comme un monsieur qui s'appelle Michel Bédard, qui lui organise, co-organise celui de la ville de Québec, là où a lieu à chaque année d'ailleurs notre concours de prototypes au Québec. Qui est un peu l'équivalent de Bouillon-Billancourt en France.
Qui a bien explosé aussi celui-là. Je crois que le nombre de prototypes proposés est en train de bien grandir.
Oui, c'est très, très intéressant. L'édition de cette année a attiré des gens d'Europe qui sont venus vraiment nous présenter avec une grande motivation leur jeu. Et on sent que ce n'est pas les frontières outre-mer qui nous bloquent. Et oui, c'est ce concours-là commence à prendre ampleur. Les éditeurs aussi le suivent très attentivement ici.
Mais merci Pierre Poisson-Marquis, c'était un plaisir et bravo pour cette motivation de contacter les médias, de montrer que le jeu est trop de choses que des bouts de carton qu'on joue dans une cave, donc c'est très bien. Merci beaucoup, à très bientôt.
Ben merci, c'est à vous.
Merci chers auditeurs, et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.